Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 19e épisode, je reçois Émilie, monitrice de portage et instructrice en massage bébé au sein de l'entreprise qu'elle a créée et qui s'appelle « Dans ma poche à kangourou ». Depuis plusieurs années, elle propose des ateliers de sensibilisation au portage physiologique. Elle propose également des séances d'essayage de moyens de portage pour trouver celui qui convient le mieux au porteur et au bébé ou à l'enfant. Dans cet épisode, elle nous explique les bienfaits du portage pour le bébé mais aussi pour le porteur. Elle décrypte pour nous les différents moyens de portage en fonction de l'âge du bébé et de ce qui nous convient le mieux. Entre écharpe tissée ou tricotée, sling, maitey ou porte-bébé préformé, promis, à la fin de l'épisode, vous y verrez plus clair. Elle nous détaille aussi les différentes positions de portage avec moyen de portage, mais également comment porter correctement son bébé juste dans les bras. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec toi, on va parler du portage.
Ouais.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quelle est ton activité, voilà, et comment t'en es venue à faire du portage?
Donc je m'appelle Émilie, je suis créatrice de l'entreprise Dans ma poche à kangourou, je suis monitrice de portage, instructrice en massage bébé.
D'accord.
Je suis vraiment tombée vraiment dans l'aventure parentale, bah, du coup évidemment en ayant mes deux enfants qui ont maintenant 7 et 3 ans. Et être maman, ça a été un peu ma révélation, en fait. Ça a été mon meilleur job, on va dire, le travail dans lequel je m'épanouis vraiment le plus. Et du coup, j'ai tout quitté. J'ai quitté 13 ans de grande distribution pour pouvoir profiter de mes enfants. Et donc, j'en ai profité pour devenir monitrice de portage. C'était quelque chose que je faisais déjà, moi, avec mes enfants. Et quand j'ai découvert vraiment tout cet aspect bien-être pratique du portage, j'ai décidé tout simplement de tout quitter pour pouvoir me lancer dans cette aventure, de pouvoir accompagner les parents, les sensibiliser de manière on ne peut plus neutre, c'est-à-dire que moi je ne suis pas payée par des marques pour dire ça c'est mieux, non, je suis là pour leur donner les infos, des vraies infos qu'on ne trouve pas forcément facilement sur les réseaux sociaux parce qu'au jour d'aujourd'hui on trouve vraiment de tout, tout et son contraire malheureusement, donc c'est vrai que les parents sont souvent un petit peu perdus, donc mon travail voilà, ça se résume à ça, c'est à venir sensibiliser au portage, au bon portage physiologique pour permettre un bon développement du corps de l'enfant, pour pouvoir aussi leur permettre de s'épanouir dans leur parentalité, un petit peu comme moi. Et c'est vrai qu'en portage, en atelier, on dérive toujours un petit peu sur différents thèmes, sur, j'appelle ça le package complet de la parentalité bienveillante et positive, portage, massage, langue des signes, diversification menée par l'enfant, motricité libre, et voilà, c'est... ce que je trouve génial, c'est que dans la parentalité, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, à gratter, à découvrir. Donc voilà, je suis sans cesse en apprentissage, moi aussi, auprès de ses parents.
Alors, on va rentrer dans les différents thèmes que tu as évoqués là autour du portage. Mais avant, j'avais une question sur ta formation. Comment on devient monitrice de portage ou en capacité d'animer des ateliers de portage?
Alors, il faut tout simplement faire une formation. Elle peut durer quelques jours jusqu'à une semaine en fonction des organismes de formation. Ça nous permet de voir un petit peu le récapitulatif de tout ce qu'on a pu entreprendre, essayer quand on est déjà maman porteuse. Sinon, ça permet vraiment de découvrir tous les moyens de portage qui existent, comment les manipuler, parce que d'un moyen de portage à un autre, on n'a pas les mêmes manipulations. Je pense aux écharpes. Il existe des écharpes tissées, des écharpes tricotées qui ont leurs propres nœuds. Donc ça, on apprend aussi à bien les différencier, à savoir les faire, les manipuler, les transmettre aussi, parce que c'est pas forcément inné de savoir transmettre ces manipulations. En soi, il suffit juste, voilà, de faire une formation. Après, c'est un apprentissage constant, à mon sens, c'est-à-dire que on va faire une formation, certes, mais c'est pas pour autant qu'on est de suite habilité à se lancer dans l'aventure. Il faut déjà se créer soit en entreprise, soit en association pour pouvoir exercer légalement. Il faut aussi participer à des formations continues pour sans cesse se mettre à jour, parce que le portage, c'est quelque chose qui évolue. Moi qui ai commencé il y a 7 ans, on avait moitié moins des moyens de portage qu'on a aujourd'hui sur le marché. Donc du coup, voilà, il faut apprendre, découvrir de nouvelles choses aussi, se remettre parfois en question, se confronter aussi aux autres monitrices, découvrir chacune ses petits trucs et astuces, essayer, tester de nouvelles choses, et c'est comme ça aussi qu'on évolue en tant que monitrice.
Effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de moyens de portage. On y reviendra tout à l'heure. Tu nous indiqueras comment on peut s'y retrouver.
Ouais.
Alors, mais avant ça, la première question, c'est pourquoi est-ce que c'est si important de porter nos bébés et quels sont les bienfaits pour eux et pour nous?
Alors, c'est vrai que le portage, c'est finalement vraiment la suite logique de la grossesse, parce que in utero, le bébé, il était dans un environnement chaud, sombre, il était tout contenu. Et là, bam, à la naissance, il arrive dans un environnement presque hostile, froid. Il passe de contenu à contenant, il va subir la gravité, découvrir la faim, c'est une perte de repère totale. Et quand on va porter son bébé, finalement, il va ressentir, revivre toutes les choses qu'il a connues auparavant in utero. Le fait d'être contenu, d'être au chaud, d'être en mouvement, d'avoir les battements du cœur, les odeurs de son porteur, ça va vraiment lui permettre de développer un sentiment de bien-être, de sécurité. Il va s'apaiser naturellement. Un bébé qui est du coup régulièrement porté va aussi moins pleurer. Ça va limiter les risques de plagiocéphalie. Enfin, il y a vraiment... beaucoup, beaucoup de bienfaits, mais effectivement, pas que pour l'enfant, également pour le porteur, tout simplement pour les mamans. Déjà, le fait que le portage en peau à peau, c'est vraiment la base de l'allaitement, donc ça va aussi aider à réguler, à stimuler la lactation. Ça va permettre aussi de diminuer le risque de dépression postpartum, parce que quand on porte son bébé, on sécrète de l'ocytocine, l'hormone du bien-être, et du coup, ça va réduire ce risque. Alors, je ne dis pas que le risque sera de zéro, mais ça peut tout simplement, voilà, permettre
ça
de
limiter
le risque, voilà, aider un petit peu aussi. Et puis, ça aide aussi pour favoriser, créer ce lien d'attachement, parce que c'est pas parce qu'on a porté in utero notre bébé pendant 9 mois qu'on l'aime directement dès qu'il naît. Ouais. Ça paraît horrible à dire, mais...
Mais c'est parfois plus compliqué que ça, effectivement.
C'est ça, et il y a des parents qui culpabilisent beaucoup de se dire, purée, mais on l'a voulu ce bébé, on l'a attendu, et là, il vient de naître, et j'arrive pas de suite à l'aimer, mais en fait, c'est tout à fait normal, c'est un apprentissage aussi, c'est une rencontre. On va apprendre à devenir parent, à aimer cet enfant, et le portage va vraiment favoriser la création de ce lien.
Et moi, je rajouterais un petit avantage en plus, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps qu'on porte son bébé.
Ah bah oui, évidemment.
Et que quand même, ça, c'est génial.
C'est vrai que du coup, c'est le premier truc qui ressort. Hein, les parents, principalement, ils commencent à porter leur bébé. Pourquoi ? Pour retrouver leurs deux bras, hein, clairement. Moi, mon deuxième enfant, il était imposable. Mais quand je dis imposable, c'est qu'il était dans l'écharpe facile, 8 heures par jour les premiers mois, qu'il fallait faire pipi avec lui, il fallait prendre sa douche avec lui. Voilà, je faisais tout avec lui en portage. Hein, je ne pouvais rien faire seule. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, purée, mais les parents qui ont un enfant comme le mien, c'est leur premier enfant, ils n'ont pas cette solution, ils font quoi à part rester 8 heures sur le canapé à attendre que la journée passe, quoi, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment l'allié du quotidien, clairement.
Ouais. Est-ce qu'il y a des bébés qui n'aiment pas être portés?
Alors, plus que le fait de ne pas aimer être porté, je pense que ça vient souvent du fait que les parents n'ont pas forcément toutes les solutions adaptées, dans le sens où, en fonction de certains mots des enfants, je prends un exemple concret, un bébé qui a un fort reflux, si les parents ont une écharpe de portage qui est extensible avec de l'élastane, très souvent les bébés n'aiment pas cette sensation un petit peu plaquante de l'élastane, ce qui fait qu'ils vont tout de suite se mettre en hyperextension pour manifester un peu leur inconfort, et du coup les parents ils se disent « bah non, en fait, à chaque fois que j'essaye, ça va pas, ça lui plaît pas, il aime pas être porté ». Alors qu'en essayant différentes choses, différentes positions, peut-être que du coup on arriverait à un moyen de portage qui serait bien plus adapté et qui serait toléré par l'enfant.
Ouais, effectivement. Je te pose la question parce que moi, ma deuxième, elle bougeait beaucoup, elle était hyper active, elle est toujours comme ça. Et j'avais effectivement une écharpe en élastane que la première a beaucoup utilisée, qu'elle adorait. Et la deuxième, elle détestait ça, en fait. Elle n'aimait pas cette sensation d'être comprimée contre moi. Et ça, elle avait besoin de bouger, quoi. Ouais. Et ça lui, elle avait envie d'être dans les bras, mais clairement, être dans ce truc qui l'empêchait de bouger, ça lui plaisait pas du tout, même déjà à 2-3 mois, quoi.
Ah oui, bah moi, mon deuxième, je l'ai porté exclusivement, en écharpe tissée, parce qu'en écharpe tricotée, il ne supportait pas. C'est pas faute d'avoir essayé, et pourtant, je me dis, voilà, je suis mono, j'ai les bonnes méthodes, donc il n'y a pas de souci. Mais non, c'était un moyen de portage qui clairement ne lui correspondait pas. Il n'était pas bien dedans. Alors que si je le mettais dans un autre moyen de portage, il était clairement beaucoup plus à l'aise. Donc je pense que c'est pour ça que moi, je dis souvent, chaque peau a son couvercle, mais chaque porteur a son moyen de portage aussi.
Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut porter les enfants dans des moyens de portage dès la naissance? Ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Et après, jusqu'à quel âge on peut porter les enfants? Est-ce qu'il y a un âge limite?
Alors, dès la naissance, on peut parfaitement porter son bébé. Il y a très souvent même des mamans qui mettent un sling dans leur valise de maternité pour porter vraiment dès la naissance. Donc non, on peut vraiment porter dès la naissance. Même avec des bébés qui ont un petit gabarit, qui font moins de 3 kilos, c'est parfaitement possible. Et la fin du portage, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de poids. Les seules limites, ça va être déjà le confort du porteur. Parce que quand on commence à avoir un enfant qui monte en poids, ça peut devenir plus inconfortable. Encore qu'avec un moyen de portage bien adapté qui va être suffisamment couvrant pour l'enfant, ça va être beaucoup plus acceptable comme sensation aussi. Mm-hmm. Et ça va dépendre du moyen de portage qu'on va utiliser, prendre quelque chose de plus grand. Et aussi notre envie aussi bien à nous qu'à l'enfant d'être porté. Il y a des enfants qui même grands, ont ce besoin d'être portés. Ça ne va plus être des portages de 2-3 heures, ça va être sur du 10 minutes, mais il y a le portage câlin, il y a le portage, quand on fait des grosses balades, l'enfant, il en a un petit peu plein les pattes, ou en fin de rando, on va dire. Ça peut parfaitement dépanner d'avoir un moyen de portage pour porter un grand enfant, ne serait-ce que quelques instants.
D'accord, ok. Alors, tu nous as parlé de plein de portages différents, le sling, l'écharpe tissée, l'écharpe tricotée. Moi, j'avais vu aussi les porte-bébés, il y en a 10 milliards différents. C'est ça. C'est hyper compliqué de savoir qu'est-ce qui est du marketing, qu'est-ce qui est vraiment lié à des méthodes de portage différentes. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de nous donner des indications sur comment on s'y retrouve, quel moyen de portage est adapté à quel type de portage, etc.
D'accord. Donc en fait, effectivement, il y a plusieurs moyens de portage qui existent. Principalement, dès la naissance, on va essayer de favoriser quand même tout ce qui est écharpe tissée, tricotée ou les slings, parce que c'est ce qui va permettre quand même un meilleur serrage au pli par pli au niveau du dos, parce que l'enfant à la naissance, il est totalement hypotonique, il s'affaisse, son dos n'est pas suffisamment tonique pour se maintenir, se tenir droit. Donc du coup, on va devoir soutenir comme si on allait soutenir chacune des vertèbres de son dos pour éviter qu'il s'affaisse et qu'il se tasse sur lui-même. Donc pour ça, les écharpes et les slings, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dès la naissance pour vraiment quelque chose d'optimal pour les nouveau-nés. Après, c'est vrai qu'il y a des parents qui ne veulent vraiment pas du tout faire de nœuds, même après avoir essayé, ou qui sont pas à l'aise. Hein. On va pas se leurrer, il y a des parents qui ont deux mains gauches et que c'est compliqué pour eux de faire un nœud correct. Auquel cas, il y a des solutions.
Des fois, j'avais peur que ça tienne pas, quoi.
Oui, voilà. Et du coup, il y a des solutions alternatives comme des porte-bébés qui sont réellement utilisables dès la naissance. Ce qui n'est pas le cas de tous, hein, parce que malheureusement, marketing, effectivement, ils vous sont tous vendus comme utilisables dès la naissance, mais malheureusement, très peu le sont réellement en termes de bon soutien au niveau du dos, de respect du corps pour la maman, étant donné qu'avec les ceintures des porte-bébés, ça vient appuyer sur le ventre, sur l'utérus, et normalement, on ne devrait pas avoir de ceinture tant que la rééducation du périnée n'est pas terminée. Donc voilà, tout ça, ça serait normalement à favoriser dès la naissance, et c'est des moyens de portage qu'on va pouvoir utiliser même avec des enfants plus grands. À partir de 4 mois en moyenne, on va pouvoir utiliser tout ce qui est les systèmes de métaille. Donc c'est un petit peu comme des porte-bébés, avec un tablier en tissu d'écharpe, une ceinture à nouer ou à clipser en fonction des modèles, et des grands pans en guise de bretelles qu'on va venir nouer un petit peu comme des écharpes. Donc ça, c'est un petit peu le mix hybride entre les écharpes et les porte-bébés préformés. On garde le confort de l'écharpe, le moelleux, le côté un petit peu cocon, tout en ayant la rapidité d'installation du porte-bébé préformé. Et enfin, le porte-bébé préformé, donc système à clipse avec une ceinture à clipse, des bretelles qui viennent se clipser et des sangles à resserrer, qu'on peut utiliser majoritairement à partir de 6-8 mois, une fois que l'enfant a un meilleur tonus au niveau du dos. Après, il y a plusieurs tailles, il y a les tailles standards qui vont aller jusqu'à à peu près 18-24 mois en moyenne. Ensuite, on a les tailles toddler jusqu'à 3-4 ans et les preschool à partir de 3 ans, 1 mètre à peu près, pour les plus grands enfants.
D'accord, ok. Quelle différence entre sling et écharpe ?
Le sling, c'est une écharpe en fait, c'est un bout de tissu vraiment en confection d'écharpe, en tissage d'écharpe, avec deux anneaux qui vont permettre un portage asymétrique sur une seule épaule. Et il n'y a pas de nœud en soi à faire. C'est le fait de passer le tissu, de le coincer dans les anneaux qui fait que ça va venir créer ce nœud et faire cette tension qui fait que ça va tenir.
Oui, donc sling, il n'y a pas de nœud, écharpe, on fait des nœuds.
Exactement.
Ok. Et entre écharpe tissée et écharpe tricotée, quelle est la différence ?
Alors, les écharpes tissées, ça va être celles qui vont être vraiment faites sur un métier à tisser, qui sont rigides, qui ne vont pas venir s'étirer. D'accord. Les écharpes tricotées, c'est celles qui vont être extensibles, plus ou moins extensibles. Là, dans cette catégorie-là, on a celles qui sont avec élastane, qui vont s'étirer un petit peu dans tous les sens, et celles sans élastane, qui sont souvent revendues par des marques des magasins de puériculture. Alors, c'est un petit peu les plus compliquées à manipuler. Elles s'étirent beaucoup dans un sens, mais très peu dans l'autre, ce qui rend leur manipulation assez technique. Surtout qu'en plus, le nœud qu'ils préconisent sur les notices de ces écharpes-là n'est absolument pas adapté à l'écharpe. Donc voilà, histoire d'encore plus vous prendre la tête et compliquer la tâche, voilà, c'est génial. Et donc, il y a deux nœuds différents en fonction de ces écharpes-là. Tout ce qui est écharpe tricotée, donc qui vont venir s'étirer, extensible, il va falloir minimum deux couches de tissu sur le dos du bébé pour avoir quelque chose de sécurisé, pour limiter le risque de chute.
D'accord. Comment on fait pour apprendre tous ces nœuds, concrètement ?
Concrètement, le mieux, à mon sens, ça reste de faire un atelier de portage parce que, voilà, non seulement vous allez pouvoir comprendre comment manipuler tous ces moyens de portage qui vous seront proposés en fonction du stade de développement de votre enfant, mais aussi, ça va vous permettre de manipuler, d'essayer, de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise et de trouver vraiment ce qui vous convient le mieux. Et c'est vrai que très souvent, il y a les parents qui achètent par défaut un moyen de portage ou qui le mettent sur la liste de naissance et finalement, ce moyen de portage reste au placard parce que très souvent, en fait, ils se rendent compte que ça ne leur correspond pas et du coup, ils abandonnent très vite le portage. Donc, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai qu'un atelier, comme je disais tout à l'heure, c'est le moyen déjà de rencontrer quelqu'un, parce que quand on vient d'accoucher, on se retrouve très vite seul chez nous, hein, on ne va pas se leurrer.
Oui,
on est un petit peu démunis, en plus, si c'est le premier et que c'est un petit peu compliqué à trouver notre rythme et à ce que tout se mette en place. Donc ça nous permet aussi de retrouver un petit peu une vie sociale avec quelqu'un qui va être professionnel, on va dire un petit peu de la petite enfance, qui ne sera pas du tout dans le jugement, qui va venir, moi c'est ce que je dis souvent, moi je viens et j'apporte des clés et après c'est aux parents d'ouvrir la porte, tout simplement. Mmh. Et ça nous permet aussi de diagnostiquer certaines choses. C'est vrai que des fois, j'ai eu 2-3 fois des mamans, quand on commence à parler, hop, bam, elles se mettent à fondre en larmes d'un coup et je me dis, oula, la dépression postpartum, à mon avis, elle n'est pas très loin, là. Donc du coup, ça nous permet aussi de leur dire que non, elles ne sont pas toutes seules et on peut les réorienter vers d'autres professionnels. Pareil pour l'allaitement, j'ai des mamans des fois qui désespèrent de ne pas réussir leur allaitement. Et du coup, je peux les orienter vers une conseillère IBCLC qui saura vraiment personnaliser leur encadrement, on va dire, et leur donner des solutions.
Oui, apprendre les nœuds, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous les montre. Et après, je sais que par contre, quand on s'en sert souvent, ça vient très vite, quoi.
Exactement.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, qu'on a compris le nœud qui convient bien à nous et à notre enfant, après, ça devient très vite un réflexe.
Exactement. Moi, je compare souvent ça, justement, au fait d'apprendre à conduire. Au tout début, on regarde nos pieds, on regarde nos mains toutes les 5 minutes en se disant « Attends, je suis à quelle vitesse ? J'appuie sur quelle pédale ?» Et en fait, à force de le faire, au jour d'aujourd'hui, je passe mes vitesses, je ne regarde même pas. En portage, c'est la même chose, surtout quand on a un enfant qui est assez petit. Au début, le nœud, on va le faire 3-4 fois par jour, facile. Donc, en 3-4 jours, on est rodé et ça vient très vite. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une monitrice qui vient chez nous montrer, Il y a du coup ce côté social que je disais juste avant, mais il y a aussi le fait que la monitrice, elle va pouvoir vraiment vous donner des petits trucs et astuces bien personnalisés, des choses qu'on n'aura pas sur les tutos.
Est-ce qu'il y a des marques ou des matières différentes? Et est-ce que vraiment, il y a des choses que toi, tu recommandes particulièrement, des sortes de coups de cœur que toi, t'aimes particulièrement et pourquoi?
Je pense que c'est très difficile de conseiller une chose plutôt qu'un autre parce qu'encore une fois, on a tous notre propre confort. Donc, c'est vraiment propre à chacun et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant d'essayer et de trouver ce qui nous convient le mieux. Moi, je sais que j'adore, avec les tout-petits, je suis fan des écharpes tissées que je trouve très polyvalentes. J'aime beaucoup les slings, j'aime bien, dès la naissance tout-petit, celui de Love Radius que je trouve très, très doux et très agréable avec un tout-petit. Et moi qui n'aimais pas forcément les peurs bébés préformés, donc à clips, quand mon fils a eu 9 mois et qu'il fallait partir à l'école et que je me rendais compte que je mettais 15 plombes à faire mon nœud pour pouvoir aller à l'école qui est pourtant juste à 2 minutes de chez moi et que j'étais tout le temps la dernière à partir, je me suis dit il faut que j'achète un porte-bébé préformé et j'en ai essayé plusieurs et j'en ai trouvé un, c'était l'Aimé Baby à l'époque qui m'avait conquis et qui m'a renoué un petit peu avec les porte-bébés préformés. Bon, aujourd'hui, j'en ai plus de 30 différents. Je suis devenue totalement accro aux porte-bébés à cause de ça. Donc je pense que, encore une fois, c'est vraiment important d'essayer. Et je propose aussi ce service-là pour toutes les personnes qui sont proches de chez moi, donc en Bourgogne. Je propose un peu des séances de Pretty Woman du porte-bébé pour que les parents...
Oui, parce que c'est difficile, en fait, parce qu'on peut pas, on n'a pas la possibilité de les essayer avant. Ben donc, à moins d'avoir une copine qui en a un et qui nous le fait essayer. Mais sinon, on est obligé de se fier à soit ce que nous dit une vendeuse dans un magasin, soit ce qu'on lit sur Internet et aux avis des autres mamans. Mais ce qui ne correspond pas forcément à ce que nous, on aime et à ce que notre bébé va apprécier aussi.
Exactement. Et ça dépend aussi des gabarits. Il suffit qu'il y ait une maman qui soit assez ronde ou une maman qui soit très mince ou quelqu'un qui soit très grand. En fonction de certains modèles, il va falloir des réglages particuliers qui font que ça sera bien plus confortable pour le porteur aussi. Donc, je pense qu'effectivement, on est plusieurs monitrices à proposer de la location, donc ça c'est génial, ou des essayages comme ça pour pouvoir tester vraiment différentes choses et faire un petit peu son marché pour trouver le moyen de portage. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'en conseiller un plutôt qu'un autre parce que le confort est tellement propre à chacun. C'est très difficile.
Est-ce qu'on peut porter les tout petits dès la naissance sur le dos ou est-ce que c'est principalement devant? Parce que moi, j'ai toujours entendu petit bébé ne se porte que devant. Et puis, il me semble avoir découvert récemment que, en fait, non, finalement, on peut les porter aussi sur le dos.
Non, absolument, on peut porter en écharpe sur le dos dès la naissance, du moment qu'on, qu'on utilise le moyen de portage approprié et qu'on a, on va dire, la technique aussi. Mais non, on peut parfaitement... En fait, c'est vraiment typique occidental de porter son bébé sur le ventre. C'est un petit peu, aussi la continuité de la grossesse. On peut câliner son bébé, on peut l'embrasser, le sentir. C'est vraiment le côté un peu cocooning qui est très appréciable. Mais partout ailleurs dans le monde, personne ne porte en ventral. Tout le monde porte à dos et c'est vrai qu'on peut parfaitement porter à dos dès la naissance.
D'accord. C'est vrai que alors, quand c'est un premier... on a un peu le réflexe de le porter devant parce qu'on a un peu le stress, on est sûr de... Enfin, clairement, on se sent plus... Enfin, moi, je me sentais plus rassurée de l'avoir devant parce que j'avais l'impression que si je sentais qu'elle allait tomber, j'allais pouvoir la rattraper. Enfin, il y a une espèce d'instinct comme ça qui fait qu'on se sent rassurée devant. Et je pense que pour un second, on est plus enclin à le mettre sur le dos, d'abord parce que...
Pour le côté pratique, et t'en as un devant qui te
tient. Voilà, c'est ça. Et puis parce qu'on a moins cette peur-là, je pense. Est-ce qu'on peut porter deux bébés, enfin deux enfants en même temps? C'est-à-dire, par exemple, quand on a un nouveau-né et un enfant qui n'est pas si grand que ça, de 18 mois ou de 24 mois, est-ce qu'on peut porter les deux en même temps?
Oui, on peut parfaitement porter deux enfants en même temps, ou même quand c'est des jumeaux. Quand c'est des jumeaux, on peut les porter. Alors, tout petit, on peut les porter bien devant, en ventral décentré, chacun autour d'un sein. Sinon, après, même avec des plus grands, on porte un devant, un derrière, sans aucun souci.
D'accord, ça, c'est pas un problème. Non. Et est-ce qu'on peut porter enceinte?
Oui, aussi. Alors, tant qu'on n'a pas de contre-indication médicale, systématiquement.
Oui, bien sûr.
On ne sait jamais. Mais non, alors là, du coup, on favorise quand même, encore une fois, le portage d'eau. Principalement quand le ventre commence à être vraiment proéminent, encore un petit peu sur la hanche, très haut, mais si c'est un enfant qui est assez grand, c'est moins confortable. Mais sinon, en portage d'eau, bien haut, il n'y a aucun souci quand on est enceinte et qu'on n'a pas de souci particulier au niveau de la grossesse.
Ok, alors depuis tout à l'heure, on parle de portage évidemment de portage physiologique. Est-ce que tu peux nous préciser Qu'est-ce que c'est que le portage physiologique ?
Alors, le portage physiologique, en fait, tout simplement, c'est le fait de porter dans le respect du corps de l'enfant et de permettre aussi son bon développement. Donc, nous, en portage physiologique, on sensibilise principalement au niveau du développement du dos et du développement des articulations des hanches. C'est-à-dire qu'au niveau du dos, on voit que le nouveau-né, comme je disais tout à l'heure, son dos, il n'est pas suffisamment tonique, pas suffisamment musclé pour bien se soutenir. Donc, du coup, il est tout arrondi, tout affaissé. Et plus l'enfant va grandir, plus l'enfant va redresser, se muscler au niveau du dos, donc en partant de la nuque pour arriver jusqu'au bassin. Et en fonction du moyen de portage, on va faire en sorte de respecter cette posture naturelle au niveau de son dos. Quand on est aussi en position physiologique, on voit tout le monde dit il faut remonter les genoux, que les genoux soient plus hauts que les fesses.
Donc ouais, en faisant ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut bien remonter les genoux juste devant là en position grenouille ?
Ouais, c'est exactement ça. Donc bien en position grenouille, le dos arrondi, le bassin basculé, les genoux plus hauts que les fesses. Dans cette position-là, on favorise aussi le bon emboîtement du col du fémur dans sa cavité. Ça va permettre de favoriser aussi un bon développement des articulations des hanches qui sont encore la première année très souple, très malléable, c'est encore du cartilage, c'est pas vraiment de l'os bien dur. Donc il faut vraiment, en permettant cette bonne position, ça va vraiment favoriser le bon développement d'articulation et ça va limiter le risque de dysplasie de la hanche, donc la malformation du col du fémur ou de sa cavité, chose qui risque d'arriver quand on a un moyen de portage qui est non physiologique avec les jambes pendantes vers le sol qui subissent la gravité. Donc c'est encore quelque chose qui va, voilà, encore un des derniers bienfaits du portage, c'est que ça permet le bon développement physique de l'enfant.
D'accord. Il y a encore des moyens de portage non physiologiques qui sont vendus ?
Oui, malheureusement, c'est vrai qu'il y en a encore, il y en a encore beaucoup qu'on trouve.
D'accord.
C'est pas facile pour les parents de s'y retrouver. Donc en fait, tout ce qui a une base très très étroite et qui, en fait, où on voit que l'enfant va être tout droit à l'intérieur du moyen de portage, ben voilà, tout simplement, il faut éviter.
Ok.
En fait, les parents se disent, mais si ça se vend, ça peut pas être mauvais. Et là, moi, la première chose que je dis, c'est regardez, vous allez dans un bureau de tabac, on vend du tabac. C'est une des premières causes de mortalité en France. On vend aussi de l'alcool. Enfin, il y a plein de choses qui sont vendues. Les sièges auto, il y a des sièges auto qui ne passent pas les crash tests, mais c'est quand même vendu parce qu'il y a des normes qui sont respectées. Mais ces normes-là, c'est pas forcément des choses qui vont être sécurisées. Faut pas oublier en fait que dans le domaine, voilà, les marques qui vendent ces moyens de portage, qui vendent ces sièges auto, c'est des marques de puériculture. Ce ne sont pas des professionnels du portage, ce sont des professionnels de puériculture.
De la vente.
Voilà, exactement. Leur but, c'est de faire du fric, en fait. Clairement, ils n'ont pas à cœur comme nous, les monitrices, de vouloir, voilà, vraiment promouvoir le portage, le bon portage, le respect du corps du bébé, la proximité parent-enfant.
Ça marche. Je pense que c'est clair.
C'est triste, hein, malheureusement, mais
non, mais c'est pas le quand on est parent, c'est difficile, hein, parce que pour faire le tri, c'est compliqué, quoi.
Ouais. Ah bah bien sûr, on sait pas en fait. Et c'est vrai que comme ça se vend, on ne réfléchit pas forcément pourquoi du comment. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir justement toutes ces infos qui sont vraiment essentielles aux futurs parents dans, je sais pas, les préparations à la naissance, des choses comme ça, des choses un petit peu plus vraiment personnalisées pour pouvoir différencier l'essentiel du
alors après, marketing. Enfin, je pense que ça dépend aussi après des sages-femmes. Hein. Moi, je me souviens, ma sage-femme, elle avait une écharpe à son cabinet et pendant les cours de préparation à la naissance, elle nous a montré l'écharpe, par exemple.
Ah, c'est génial, ça.
Donc, je pense que ça dépend aussi des professionnels de santé et de la sensibilité qu'eux, ils ont et de la formation qu'eux, ils ont.
Oui, aussi, également.
Comment on positionne son bébé dans une écharpe ou dans un sling ou dans un porte-bébé ? Et surtout, comment on sait qu'il a la bonne position une fois installé ?
Alors, on ne va pas venir en fait en soi positionner le bébé, on va le laisser s'installer dans sa posture naturelle. Donc avec un tout petit, comme je disais tout à l'heure, il se met par défaut dans une position bien physiologique. Et en fait, on va venir juste, on va dire, un peu l'entourer du moyen de portage, tout simplement.
D'accord.
Et après, bon, pour vérifier qu'il est bien positionné, moi, c'est vrai que je dis toujours aux parents de faire leur installation et de contrôler après dans le miroir,
ouais,
de vérifier différentes choses. La position qui est bien physiologique, un petit peu assis accroupi, le dos rond, les voies respiratoires bien dégagées, qu'il y ait suffisamment d'espace de part et d'autre de son visage pour que l'air se renouvelle correctement, qu'on puisse voir son nez, sa bouche, que les mains soient à portée du visage, parce qu'un bébé a un réflexe de succion, donc il va vouloir chercher à téter ses doigts, et aussi que les pieds soient bien libres et pas recouverts.
J'avais une grande crainte, c'est qu'elle ait la circulation qui soit coupée au niveau des jambes.
Ah oui, ouais.
Ça me stressait énormément quand quand je l'ai portée. Mais non.
Bah, ça aussi, on peut le contrôler quand tu es, par exemple, dans un nœud d'écharpe. Il faut que tu puisses passer ton doigt entre le tissu et les genoux en fait, de ton bébé assez facilement. Alors, ça va forcément appuyer parce qu'il y a tout son poids qui repose sur ce tissu.
C'est ça.
Mais il faut que tu puisses passer ton doigt facilement sans trop que ça coince. Effectivement, si ça coince, c'est que c'est peut-être trop serré.
D'accord. J'ai découvert sur ton compte qu'il fallait absolument laver les moyens de portage avant de les utiliser.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Alors, principalement pour tout ce qui est déjà en tissu d'écharpe. Alors, ça s'adresse vraiment à des moyens de portage qu'on achète neufs. Tous les moyens de portage qui sont faits en tissu d'écharpe, donc ça peut être des métailles, ça peut être des écharpes tissées, ça peut être même des portes bébés qui sont faits en tissu d'écharpe. Le lavage, il va permettre de faire gonfler les fibres et de venir repositionner justement le tissu, toutes les mailles correctement dans le tissage. Et ça va venir, en fait, c'est vraiment la dernière étape de finalisation au niveau du tissage. Donc en plus, très souvent, on voit les écharpes neuves qu'on achète, elles sont très fines et elles prennent du volume dès qu'elles sont lavées et sèches. Et donc c'est ça qui va venir renforcer le tout. Si avec un moyen de portage comme ça, une écharpe tissée par exemple, on vient l'essayer avant de la laver, l'inconvénient c'est qu'on peut pas détruire mais abîmer un petit peu ces fibres-là. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, notre tissu il va venir pocher un petit peu, il va créer un petit peu de trop de mou à l'endroit où il y a eu le poids du bébé. Donc c'est pour ça que c'est très important de laver le moyen de portage aussi, surtout quand c'est un tissu d'écharpe. Après, c'est aussi le fait vu que c'est un moyen de portage qui est neuf, ça permet aussi d'enlever toutes les dernières petites traces de poussière, d'odeur de plastique due au conditionnement, et puis de teinture aussi au niveau des fibres qui pourraient rester.
Ok. Est-ce que, au-delà de l'aspect hygiénique et propreté, il est important de le laver régulièrement ?
Alors, tout ce qui est écharpe tissée, moins on les lave, mieux c'est. Alors, il ne faut pas attendre qu'elle soit super méga crado pour la laver non plus. Hein, mais une écharpe tissée, en fait, quand on la reçoit, quand on la lave, elle devient un petit peu rigide, elle est un petit peu carton. Donc, du coup, quand on va l'utiliser, on va la roder, donc l'assouplir, l'adoucir. Et une fois qu'on la relave, y a tout ce travail de rodage qui est à nouveau à faire. Donc, on perd du temps, on se retrouve encore une fois avec une écharpe assez difficile à manipuler. Donc, on les lave vraiment que quand il y a besoin.
D'accord, ok. Dernière question. On parle souvent de portage et on associe ça avec des moyennes portées, comme nous, on l'a fait aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que dans le portage, il y a aussi ce qu'on appelle le portage à bras ? C'est-à-dire sans moyen de portage, et quelles sont les positions à favoriser quand on porte avec les bras, parce que quand même nos bébés on les porte beaucoup quand ils sont petits et pas toujours avec des moyens de portage.
Exactement, et c'est vrai que je le présente ça systématiquement à chaque atelier que je fais en disant que effectivement le premier moyen de portage qu'on a par défaut c'est nos bras, et même des parents qui nous disent non mais c'est bon moi j'ai pas envie de porter mon bébé, indirectement si, vous allez le porter à bras, pas dans un moyen de portage mais au moins à bras. Et avant d'utiliser un moyen de portage, il est très important de savoir comment porter, manipuler son bébé à bras avant d'utiliser un moyen de portage. Donc pour le porter, on va systématiquement le tenir par la base. Donc la base, ce n'est pas juste les fesses de notre bébé, ça va englober toutes ses fesses, son bassin, ses genoux. Et du coup, par défaut, donc quand ils sont tout petits, l'avantage, c'est que tout tient dans une seule main. Par défaut, ça va venir basculer le bassin, arrondir le dos et la tête va venir se poser contre le porteur.
Ok. Il y a des bébés qu'on voit poser le long du bras, avec les bras et les jambes qui pendouillent en mode un peu singe posé sur une branche, là, ou jaguar posé sur une branche. Est-ce que ça, ça pose un problème ou c'est une position qui...
Non, je pense que c'est une position... En fait, c'est souvent une position qui est appréciée pour les enfants qui ont des maux de ventre, des coliques, des choses comme ça, parce que du coup, on va venir appuyer, chauffer le ventre et c'est vraiment agréable pour eux. On a une position, on va dire... ergonomique en fait, plus que physiologique, c'est-à-dire le dos droit et les jambes à 90 degrés. Donc ça reste pas forcément ce qui est le plus naturel pour l'enfant, mais bon, si ça les soulage, on va dire des coliques, des choses comme ça, c'est quand même mieux que rien. Mais alors du coup, après en portage à bras, systématiquement se tenir la base, soutenir le haut du dos, la nuque, pour pas que l'enfant se pousse et risque de basculer vers l'arrière. Et du coup, pareil, quand on va poser son enfant, très souvent, on a envie de soulever notre bébé sous les aisselles. C'est une habitude hein, qu'on offre en fait, mais c'est très mauvais pour l'enfant parce qu'on va venir mettre son dos en hyperextension, il va venir subir la gravité, ça va être très inconfortable en fait tout simplement pour l'enfant. D'accord. Donc encore une fois, toujours la base et la nuque, et pour le poser, on fait faire toujours un petit quart de tour à l'enfant, parce que si on essaye par exemple de le poser directement à plat dos, il a ce réflexe de Moreau qui est très présent, donc il va se sentir chuter, il va venir ouvrir les yeux, ouvrir les bras, ouvrir les mains, il va se réveiller si jamais il dormait. Donc on va toujours, en tenant la base et la nuque de notre bébé, le faire un petit peu rouler pour limiter ce réflexe et éviter qu'il se réveille.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le réflexe de Moreau ?
Le réflexe de Moreau, nous on l'a aussi adulte. Des fois on s'endort, on rêve qu'on chute, qu'on tombe et on se réveille, on a un gros sursaut. Et c'est ça ce réflexe de Moreau tout simplement. Et chez les nouveau-nés, les trois premiers mois de vie, il est vraiment décuplé. À peine ils vont se sentir basculer vers l'arrière, tout de suite ils vont... ils vont se réveiller et avoir ce gros sursaut qui est quand même franchement désagréable. Donc du coup, l'exemple type, c'est que tu as ton bébé dans les bras, tu as envie de faire pipi, tu veux le poser. Si tu le bascules à plat dos, réflexe de Moreau, il se réveille et tu repousses à ta pose pipi.
Donc, c'est vrai que souvent, les bébés, il y a toujours cette phase de transition, on les a sur nous, on se dit « Ah là, j'ai envie de faire un truc, je vais tenter de les poser » et non, c'est mort.
Ah bah oui, non, puis tu le mets dans son lit qui est froid alors que toi, tu es chaud, donc c'est mort, quoi, clairement. Donc cette technique du rouler, des fois, bon, c'est pas une technique miracle, mais ça réduit...
Peut permettre...
ça peut sauver certains meubles, on va dire. Ça se tente, on va dire.
De toute façon, quand on est parent et qu'on veut faire un truc, tout se tente.
Exactement, je crois qu'on essaye tous des trucs. Puis des fois, d'une situation à une autre, il y a des trucs qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Donc, faut tout essayer au bout d'un moment.
On s'est tous retrouvés à passer 2 minutes à essayer de poser notre enfant qu'il ne se réveille pas.
C'est et que exactement ça. C'est la vie des parents. Non, tout va bien.
Ok, super. Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ?
Non, mais juste moi, si je peux sensibiliser encore les parents au fait de faire des ateliers. Alors c'est vrai que c'est souvent les parents sont parfois réfractaires parce que effectivement ça a un coût. Hein, on va pas se leurrer. Ouais.
Mais combien ça coûte à peu près un atelier ?
Alors ça dépend des personnes ou des régions. Moi ici, mon atelier, il est à 45 € pour 2 heures.
D'accord.
Mais je trouve que c'est tellement riche. Non seulement en information, puis dans l'échange, le contact humain aussi, je trouve. Et moi, j'adore repartir de chez les familles. J'ai des familles que j'ai eues en atelier qui sont devenues des personnes avec qui je communique très régulièrement parce que on a sympathisé. C'est vraiment des échanges qui sont très, très agréables. Et comme je dis souvent, il y a des bons cadeaux. Hein, on est beaucoup de monitrices à proposer du coup des ateliers en bon cadeau à mettre sur votre liste de naissance plutôt que les 15 bodies que votre bébé ne mettra jamais. C'est quand même quelque chose dont vous allez avoir besoin, même si après vous n'êtes pas amené forcément à porter votre bébé pour une raison X ou Y. On peut dériver sur plein de choses. Comme je disais tout à l'heure, on aborde la motricité, l'allaitement, la LSF, la DME. On parle de tout et de rien et ça fait du bien aussi. Donc ça peut être une très bonne idée cadeau.
Très bonne idée pour les listes de naissance.
Ouais, exactement. C'est vrai que les parents sont ravis de pouvoir avoir au moins, tu vois, rien que le portage à bras, quand on leur montre comment porter, manipuler leur bébé, c'est des choses qui ne sont pas forcément montrées en maternité parce que très souvent, les personnes, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, elles passent d'une chambre à une autre, il faut faire vite parce qu'il y a beaucoup de monde. Elles n'ont pas trop le temps de tout montrer dans le détail, d'expliquer pourquoi c'est important de faire comme ci, comme ça. Et du coup, voilà, quand moi j'arrive et que je leur montre ça, ils me disent « Ah, mais c'est génial parce que je ne savais pas. » Donc c'est tout bénéfique en fait.
C'est ça, donc faites-vous offrir des ateliers de portage.
Exactement.
Ok, super, mais écoute, ça me semble être une belle conclusion.
Ouais. Mais écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir invitée. J'espère que ça aura donné envie au moins aux parents de porter leur bébé, de creuser un petit peu les infos, de chercher un petit peu les infos à ce niveau-là. Et je reste disponible pour ceux qui auront des questions complémentaires.
Cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver de nombreux conseils sur le compte Instagram d'Emily dans ma poche à kangourou. Des moniteurs et monitrices proposent des ateliers dans toute la France. N'hésitez pas à les contacter pour ne pas rester seule avec vos difficultés de portage. En complément de son activité, Emily est également couturière et crée des vêtements pour les enfants et des vêtements d'allaitement. Vous pouvez retrouver ses créations sur le site www.tripleneu.fr Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentsinformés@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.